même audio, une mémoire sonore.
Maintenant, je vais céder la parole à Souhaide Labisse, qui est donc poétesse, romancière d'expression française, comme on dit. Tu es traductrice donc de langue d'arabe, arabe français, et pour cela, d'ailleurs, tu as eu un prix très récemment pour l'ouvrage Je franchis les barbelés, c'est cela. Et puis, un prix de la traduction. Alors, par contre, voilà, j'ai oublié le dernier mot. Oui, le désastre dans la maison des...
Le désastre de la maison des notables.
Dans la maison des notables, excuse-moi. Voilà, donc pour, qui a été récompensé effectivement par un prix. Donc merci à Souhaide donc, de nous lire et tes textes et peut-être d'Imadou.
Je suis un peu gênée par ce côté formel de la soirée. J'aurais sûrement préféré que nous soyons en cercle et pas comme ça dans un... face à face avec des choses qui passent derrière, mais bon, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. J'aimerais commencer par vous lire un texte de Majid. Je vais lui dire déjà quelque chose à Majid. Quand on se voyait à Toulouse, je lui disais « Saha Majid ». Voilà, comme on dit un peu, en tout cas à Alger. Donc c'est un texte extrait de « Par quelle main retenir le vent ?» aux éditions NEB, Noir et Blanc. Il y a un peu de toutes les mémoires dans ce lieu redécouvert, ni sombre, ni amer, juste ce qu'il faut d'épreuve pour avoir survécu au saccage. Ni tout à fait entier, ni tout à fait le même. Toujours cet espace où le feu vivace s'acharne contre les premières frayeurs des miroirs nubiles. Il y a un peu de mémoire, il y a un peu de toutes les mémoires dans ce lieu de péril, ni sombre ni amer, juste ce qu'il faut de patience après avoir toute la journée. Ensuite, je voulais partager avec vous le poème qui a été choisi pour la quatrième de couverture de la réédition de l'anthologie établie par Majid. Et le poème choisi de cette anthologie, c'est un poème d'Anna Gricky. Je ne sais plus aimer qu'avec la rage au cœur. C'est ma manière d'avoir du cœur à revendre. C'est ma manière d'avoir raison des douleurs. C'est ma manière de faire flamber des cendres. Anna Gricky. Et ensuite, voilà un petit coucou à Majid avec ce que j'écris moi-même. Qui nous remerciera, nous, peuple de paria, d'avoir tu nos peines et dans un coffre d'aéroport plier nos langues exubérantes, l'adresse d'un cimetière pour le voyage du retour. Qui ? Dans le mot exil, il y a une paire de semelles qui ne se parlent plus, un baluchon plié en haut du placard, une boussole rongée de remords, un dictionnaire bilingue qui dit peu de choses de l'exil, juste assez pour cacher sa douleur. Des semelles, un baluchon, une boussole qui ne rentre pas dans la traduction du mot exil. Une boussole, des semelles, un baluchon qui ne rêve plus du droit au retour. Il s'agit de quitter le pays légère, valise en soute, sac en cabine. Le reste n'est pas déclaré. Le reste n'a pas de bagages à sa taille. L'avion décolle. Les bagages intimes tombent en pluie de leur cachette. Quelque chose de mou, témoin du désastre, nous épie nuit et jour. Entre deux obus, nous inventerons un temps précieux. Il conjuguera la liste des verbes naïfs. Un temps d'opulence, soumis au frémissement du cœur. Et sur l'agenda du désir, nous désapprendrons le passé et le futur, assignerons le présent à une fonction d'auxiliaire. Et un petit dernier. Des dossiers pleins les bras, nous sommes arrivés devant le portillon de l'éternité. Le gardien du site s'est plaint de solitude. Personne n'était venu depuis des millénaires. Il nous a offert un thé à la menthe. Le chien n'est pas venu nous renifler. Le temps était accroché aux poussières du calendrier, sur les murs de la guérite. Nous avons pris des photos du domaine de l'éternité, un selfie avec le veilleur. D'accord. Nous sommes repartis, des dossiers pleins les bras. Merci.
Soirée poésie. Merci Soued. Ben, je vais corriger puisque effectivement j'ai pas bien prononcé, mais comme je vous invite à le lire, effectivement, donc c'est pour le. Tu as eu le prix donc de la traduction, le prix Fragonard de la littérature étrangère en 2025 pour la traduction donc en français de ce roman que je vous invite à lire qui s'appelle Le désastre de la maison des notables de la Tunisienne Amirar Nin. Voilà. Excuse-moi, je n'avais pas voilà correctement. Bien, ben merci. Bon, peut-être donc on va faire une pause avec la projection, si c'est possible, donc d'une réalisation de Mohamed Zawi. Mohamed, tu veux dire quelque chose sur ce? Donc tu es Mohamed Zawi est donc réalisateur, journaliste, correspondant, ami de Majid aussi. Tu as été remarqué, je me souviens, tu avais été venu avec un film qu'on avait passé qui s'appelait Retour à Montlu. Qui avait beaucoup marqué, qui était l'histoire donc, dans la prison de Lyon, tristement célèbre pour avoir emprisonné les Algériens de la manifestation de 61. Voilà. Et tu étais revenu avec un ancien prisonnier condamné à mort. C'était un film qui nous avait beaucoup marqué, qu'on avait eu ici avec Averroès. Et je crois que tu es encore en train de préparer un superbe documentaire sur un musicien. Bon, je te laisse parler d'Amjid.
Merci beaucoup pour cette invitation. Je voulais dire que Majid, c'est plus qu'un ami, c'est-à-dire c'est un frère. Moi, je suis d'une ville qui s'appelle Médéa. Nous sommes de la même ville, c'est-à-dire c'est la famille. Amti Aïcha, la maman de Majid, elle nous reçoit tout le temps. Et elle nous prépare du café, du couscous, tout ça. C'est vraiment, on habitait dans la même cité. Majid, il est d'une famille très populaire. Ce n'est pas la classe bourgeoise. Et c'est pourquoi il y a les conséquences de tout. Quand il y a eu le drame en Algérie, déjà, il ne pouvait pas aller à Médéa d'Alger à Médéa, parce qu'il y a le terrorisme, il y a les faux barrages et Médéa. C'est une ville connue par... c'est-à-dire on est exposé à la mort. Et puis, il habitait aussi dans une cité qui s'appelle Benjara. Benjara, c'est aussi... Et il avait un problème avec sa barbe. C'est-à-dire, avec la police, quand il fait... il est en voiture, il est terrorisé vraiment. J'ai pris la voiture avec lui plusieurs fois. Parce qu'on peut penser que c'est un islamiste. Alors, ce n'est pas un islamiste, c'est un progressiste, quelqu'un de gauche. Et voilà. Et voilà, pour vous dire, pour le film, pour que je témoigne, moi, j'étais journaliste. C'est lui qui m'a recruté, autant que correspondant à Médéa. Je travaille en langue arabe. Hein, parce que le journal, il y avait la version française, il y avait la version arabophone. J'étais très jeune, à l'âge de 16 ans, 17 ans. Et pour vous dire, à l'époque du Parti unique, mon premier article, c'était « Grève à Médéa ». Voilà. C'est-à-dire, à l'époque du Parti unique, il y avait quelque part une démocratie qu'on a imposée, qu'on n'a aucun problème. La sécurité militaire ne m'a pas pris. Ils ne m'ont pas mis en prison ou bien appelé par un juge l'article, il est passé, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, on travaillait, il y avait une foi. Il y avait quelque chose que je ne peux pas expliquer. Il y avait vraiment du militantisme, on faisait ça. On ne mesurait pas le temps, on mesurait... Majid a réussi, il a parlé plus de cette expérience d'un journal qui était unique. Même l'encadrement de la presse dans les années fin 80, 90, c'était de l'unité. Tout le monde était de l'unité. C'était vraiment une école, l'unité. Ce n'est pas des gens qui ont fait le journalisme, certains ont fait l'université, mais d'autres, non. Alors, pour le film, on était de passage avec ma famille, chez Majid Nassira. Les enfants, ils étaient petits à l'époque, je pense. Et voilà, j'ai pris ma caméra, j'avais un appareil photo, et j'ai commencé à filmer. Ce n'était pas quelque chose qui était prévu pour faire un film sur Majid. Non, il lisait la poésie, il lisait avec beaucoup de cœur. Et moi, j'ai adhéré à ce qu'il disait. Voilà, bonne projection.
Merci.
Merci.
Si peu de vie, si peu de rêve, les jours se succèdent à longs coups, ils balisent le crépuscule de nos envies. Tels des chandeliers dans la pénombre, tels des peupliers par les chemins pluvieux, la prière à forme de pierre compacte, et le couchant va s'inclinant comme un courtisan dans les linges du ciel. Si peu de nuages, si peu de sève, l'horizon incline les degrés de ses noisseurs. Ici, dans la boue de la mémoire, étincelait l'émeraude de l'utopie. Des foules en vagues criaient à tue-tête la rage d'un soleil plus juste, s'incurvait dans les sillons adverses. Mon pays commençait à la mer et s'infinitisait au désert. Nos mères nous avaient parlé de Chamel, d'une cité nouvelle pétrie dans le sable par les mains d'un prophète analphabète. Les pharisiens, oies promises au pouvoir croulant sous l'encens, se pavanent dans nos frêles jardins, nocturnes destins des pucelles, si peu de sève dans les veines, si peu de rêve dans les lèvres. Une femme s'avance dans la danse des lames, j'avais cru pourtant dans ses alarmes. C'est elle que nulle géographie n'enferme la calligraphie d'un cœur. Si peu de vie, si peu de rêve, frêle gerbe comme dédiée à celle qui sait sous les gammes de Chostakovitch. Les mimosas frémissent à l'automne. De ce jour, la pluie n'est que silence qui trempe son entourage, un nuage de bruit qui pénètre par tes yeux jusqu'au fond de ta mémoire et secoue à la face du soleil la poussière de ta chevelure. Dans ce mystère, nous n'apportons que nos mains, car nos visages ne nous appartiennent pas, sans feu ni lieu. Comme dans les contes de notre enfance, nous nous dressons des demeures pour chaque aurore, et semons, sans respecter l'ordre des saisons. Nous n'avons que faire des granges et des silos, nous cueillons. des blessures d'un autre temps. Dans ce mystère, nous n'apportons que notre faim et nous oublions les injures. Au cirque, à mes enfants. C'est un petit cirque qui ne paye pas de mine. À l'entrée, un chameau de Mongolie, fumant son haleine, fanfaronne. Il pleut et le Mongol patauge dans la boue. Au loin, très loin, dans le souvenir de son instinct, le grand désert, les belles oasis, les mirages de sable, monsieur loyal et enrhumé, mais drapé dans sa dignité, il fait l'article à grand renfort de flanflan, prouesse et exploit de héros en pré-retraite. Voici les surprenants serpents vietnamiens, le fantôme de la chèvre de M. Seguin, un bouc de chez Driss Raibi, un singe au cul pelé, point de lion façon métro Goldwyn Mayer, rugissant d'ennui. Porte de l'exil s'ouvre à Blagnac. Qu'est-ce qu'un aéroport, sinon une fourmilière de sueur humaine, adossée sur des latitudes incertaines ? Homme que voici, chargé de valises, de confiseries déconfites, de caprices démodés, tu possèdes un visage soumis au simagré du miroir. Peux-tu prouver, ô professionnel du macrache, comme dirait Rimbaud, les vigiles des frontières aux lointains ancêtres qui eurent affaire à Ibn Battuta, à Rimbaud, à Essénine, à Yassine, de quelle patrie tiens-tu ton destin dans un passeport aussi vert que le printemps qui vire à présent au noir? Qu'est-ce qu'un aéroport, sinon un commerce de l'absence, une maison close puant de nostalgie, où tu croises ta propre image dans un dédale de souvenirs. Ici s'entrelacent les mémoires blessées, rompues, recousues, à coups de tabac et d'alcool. Zohir vole vers sa mère, Hippone n'attend plus rien des remèdes de Saint-Augustin. Dans une lourde valise, minuit consommé, le larron range ses souvenirs dans des boîtes de conserve. Zohir est sur liste d'attente. Ô mon pays de longue patience, livré aux arracheurs de dents, reconverti dans l'informatique. Qu'est-ce qu'un aéroport ? Sinon de longs couloirs où l'on conjure l'oubli, où l'on se reconstruit une patrie entre vater et vacuité. Zohir ne vole pas, immolé Ismaël. Les couteaux blancs de la supercherie ont tranché tant de coups inconformes que les rosaires des mères en ont perdu leur grain. Amis, pendant que tu voles vers le soleil corrompu, je parcours les quais de l'aéroport de mes insomnies. À Blagnac, on sert des liqueurs blanches anesthésiantes de la même pâleur que ma capitale, que je ne nomme plus que par Anna Greki, foudroyée par la blancheur de l'espérance trahie. Qu'est-ce qu'un aéroport, sinon une fourmilière de sueur humaine adossée aux portes de l'exil qui s'ouvre à Blagnac.
Alors, je ne me suis pas rendu compte, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, ce n'est pas un montage, c'est un montage brut. Vous avez vu, ce n'est pas conventionnel. C'est-à-dire, voilà, le flou, il faut enlever, tout ça. J'ai laissé ma gîte comme il est, et toutes les images que vous avez vues, peut-être vous étiez un peu ennuyé par la musique. Alors, ma gîte, il a aimé cette personne. Celui qui jouait le luth, c'était à Voulenvelin. Mustapha, le frère de Majid, il est là. Il a invité Majid pour animer la soirée. Et c'est Adel Salama, c'est un Palestinien. Il est mort il y a quelques années, il y a quatre années. Voilà, 6 ans. Et je ne sais pas comment j'ai laissé. Il y a beaucoup d'images. Il n'y a pas de... C'est-à-dire que ce n'est pas un travail pensé. C'est un travail, vous avez vu la mère de Amta Aïcha, vous avez vu les neveux, vous avez vu plein l'aéroport, etc. Moi-même, que je suis exilé, c'est-à-dire que je fais des projections aussi. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.
Merci. Merci d'entendre la voix de Majid, c'est vraiment très émouvant. Il lit très bien ses poèmes, je pense qu'on va être très complexé si on veut lire un poème derrière. Donc, qui peut-être la parole à Nassera. Pardon, Mustapha. Oui, mais bien sûr, Mustapha.
Bonsoir, je suis Mustapha Kawa, je suis... le frère d'Abdelmajid. Je vais vous lire un petit texte. Il n'est pas de moi, en fait. C'est mon frère, mon plus jeune frère, Alem Dinkawa, qui vit actuellement au Canada, qui l'a écrit parce que je lui ai dit que j'allais participer à un hommage à Majid. Et du coup, je ne sais pas, il n'a pas... Dans les nuits glaciales du Canada, il n'a pas dormi. Il a écrit ce texte et il me l'a envoyé. Et puis je me suis dit... pourquoi parler quand je peux rapporter la parole de quelqu'un qui a peut-être un peu cerné mieux que moi son frère. Souvenir, le frère avant le poète. Donc en cette soirée d'hommage à mon grand frère Abdelmajid Kawa, je voudrais vous dire le texte écrit hier par mon autre frère, Alameddin, aujourd'hui âgé de 66 ans. Majid laisse derrière lui un héritage écrit, porté par une parole libre et un cœur généreux. Mais il laisse surtout en moi le souvenir d'un frère aîné qui a dû assumer très tôt des responsabilités familiales, bien lourdes pour son âge. Donc, ce n'est ni du poète, ni du brillant journaliste qu'il fut que je veux vous parler, mais du frère, et je ne sais par où commencer. Faut-il commencer par la grande joie qu'il laissa au sein de la maison des grands-parents lorsqu'il est venu au monde un 25 décembre 1950, ce jour-là, sa naissance fut vécue comme un cadeau, une lumière déposée au cœur de chaque membre de la famille. ou faut-il plutôt commencer par ce jour où je suis allé le voir dans son bureau au journal L'Unité, à la place des Martyrs, à Alger, pour lui annoncer que je venais de décrocher mon baccalauréat et que j'étais venu à la capitale m'inscrire à l'université. Je me souviens très bien de cet instant. À l'annonce de ma réussite, un lourd silence s'est abattu sur les lieux. Medjid me fixa longuement sans dire un mot. Puis, sans détourner son regard de moi, il annonça à ses collaborateurs qu'il devrait se débrouiller sans lui pour faire le journal. Il ajouta d'une voix chargée d'émotion qu'il avait aujourd'hui quelque chose de bien plus important à faire, fêter la fête, fêter la réussite de son petit frère. Il s'approcha alors de moi, les yeux mouillés de larmes. Il me prit dans ses bras et me serra très fort contre lui. À cet instant, j'ai ressenti une chaleur que je n'ai jamais plus retrouvée de ma vie. Ce n'était pas l'étreinte d'un homme public, ni d'un intellectuel reconnu, mais celle d'un frère aîné, fier, soulagé et profondément aimant. Ce jour-là, j'ai compris tout ce qu'il avait porté en silence, les sacrifices, les renoncements, les peurs aussi. Derrière l'homme de lettres et de presse se cachait un pilier familial, un protecteur discret, un frère qui avait grandi trop vite pour que nous, ses frères et sœurs, puissions avancer dans la vie. C'est de cet homme que je veux me rappeler aujourd'hui, avant le poète, avant le journaliste. Medjid, de toute sa vie, avait été un être doux et chaleureux. Et dans mes souvenirs, c'est cette étreinte, cette chaleur unique qui le résume le mieux. Que Dieu l'accepte dans son paradis et que la terre lui soit légère. Kawa al-Medjid.
Merci beaucoup. Je voulais lire un poème, mais Medjid a commencé à le lire. Il le lisait si bien que du coup, je ne crois pas, je ne vais pas le faire. Bon, moi, Abdelmadjid Kawa, c'est pour moi un ami de longue date. Je l'ai connu avec Areski à Blida. Voilà, quand à l'époque, mon mari et Areski faisaient le service militaire. Et donc, on a passé des soirées, effectivement, très littéraires. J'avais, là où je travaillais, les moyens d'apporter des ouvrages de poésie, des revues, et j'alimentais ainsi le groupe littéraire de Blida. Et puis la vie a fait que Medjid est arrivé à Toulouse, et donc il est arrivé à la maison bien triste, dans l'exil. Et puis notre vie a commencé. Voilà, pour moi, Medjid, c'est quelqu'un qui me fascinait tellement. Il pouvait parler d'une histoire et on commençait avec un continent et on partait ailleurs. On commençait à Cuba et on partait à Moscou. Et il connaissait toujours beaucoup, beaucoup, bon, bien sûr, les auteurs. Et c'était fascinant. Et puis sa curiosité, sa tendresse, sa gentillesse, c'était un frère aussi pour moi. Merci Medjid, au moins de t'avoir connu. Donc, peut-être alors un mot, Nassera.
Alors, Nassera Kawa. Donc, je remercie toutes les personnes là qui ont témoigné. Ces témoignages donc riches en souvenirs, en émotions, sur donc Medjid, le poète, le militant, le journaliste. Moi, je retiendrai le poète, voilà. Et j'aimerais bien citer, je trouve que Jamal Amrani, Allah yarhamou, donc l'a bien décrit dans un article paru à El Watan en octobre 94. Alors, je le cite. C'est que Kawa est poète jusque dans la chair de son cœur, presque trop poète. oserais-je prétendre ? L'envie me monte à la tête. Donc je pense que ça le résume vraiment parfaitement. C'était le poète à la maison, avec les enfants, avec moi-même. Donc une vie vraiment pleine de joie, de musique, de poésie. Voilà, les journées passées ainsi. Avec évidemment de bons petits plats, voilà, parce qu'il aimait bien manger. Alors, je vous remercie donc à tous pour votre présence, pour honorer sa mémoire. Pour aussi, je remercie également les personnes qui n'ont pas pu être là, mais qui ont déjà témoigné donc à travers des écrits, des reprises de. D'articles, des republications, donc des interviews qu'on voit dans les réseaux, dans les journaux algériens. Je remercie particulièrement Leïla Boutaleb, une grande amie donc, qui a accompagné pendant toutes ces années de maladie, donc qui a été présente. Elle passait des journées, de longues journées, avec lui, donc des journées ponctuées de promenades, de lectures, de musique. Je la remercie énormément. Elle a été vraiment d'un très grand soutien. Également Annie, ma sœur, ma confidente. Donc c'est ce que disait Majid sur Annie. Donc c'était sa sœur. Donc Annie également, lors de ses passages réguliers, elle ne venait jamais les mains vides. Elle avait toujours une pile de DVD, Léo Ferré évidemment, Rimsky-Korsakov, La Calas, voilà, enfin tout ce qu'il aimait. Et elle aussi, sans oublier donc les nouvelles parutions, les nouveaux recueils, les tout derniers recueils qu'elle lui a amenés, c'était le recueil de Hafid Saïdi, La blessure du papillon, donc Jorh al-Farasha. Et Espoir de Gaza, la dévastée de Ziad Meddour, qu'il a lu avec Leïla. C'était ses dernières lectures de poésie. Voilà. Après ces deux publications, voilà, il n'a plus été en mesure donc de lire. De lire ou de voilà de faire autre chose. Donc je remercie aussi enfin je remercie Monsieur le consul d'Algérie donc à travers lui les autorités algériennes d'avoir facilité ils ont été très très réactifs et très d'avoir facilité donc toutes les démarches concernant le rapatriement du corps. Et ça nous a vraiment enlevé, voilà, enfin, ça nous a permis de faire notre deuil d'une manière sereine. Merci à Averroès, voilà, d'avoir pensé à cet hommage. Allah yarahmo. Voilà, merci beaucoup.
Merci. Merci Nassera. Peut-être qu'on va avoir une petite note de musique avant de se quitter. Peut-être aussi, j'ai remarqué qu'il y avait les éditions Loubatière. Je ne sais plus, il y avait quelqu'un, voilà. Et qui est donc pour une parution où Abdelmajid Kawa a participé largement. Je crois que ça s'appelait Les Arabes d'ici, les Arabes de France. Un très beau livre. Merci. Je vois qu'il y a plus sûrement d'autres personnes ici qui connaissaient bien Majid. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Donc Yves, si tu veux bien, pour quelques notes de musique que Majid adore. Voilà. Que ces notes aillent jusqu'à lui. Merci.
Il faut rêver. Si seulement j'étais un artiste, pour faire chanter la paix. Je ferai sourire mes frères en pensant à l'amour le faire. Si seulement j'étais un chanteur, je ferais reculer la mort. Je déjouerais les mauvais sorts indiqués aux pauvres et aux pauvres. La musique à la force magique, les paroles sont le diable du sol. Les chansons entraînent les saisons, les artistes sont ceux qui l'artisent. Si seulement j'étais musicien, je ferais d'aujourd'hui demain un monde fait pour les humains, éradiquant la peur, la faim. Si seulement j'étais baladin, j'aurais la lampe d'Aladin. Chacun à l'autre tendrait la main, c'est le génie du genre humain. La musique à la force magique, les paroles sont d'un fiable sang. Les chansons entraînent les saisons, les artistes sont ceux qui la
Merci à vous. Merci à vous. Merci, merci Majid d'avoir existé et d'avoir fait tous ces textes, de nous avoir légué tous ces mots. Merci.
Même audio, une mémoire sonore.